Le congédiement de l'agronome Louis Robert, chercheur au Centre de recherche sur les grains, le CEROM, a mené à la tenue de cette commission parlementaire. Louis Robert avait dénoncé publiquement des pressions de l'agro-industrie sur des travaux menés au CEROM. Au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, on avait congédié Louis Robert. Après que la protectrice du citoyen eut conclu que le lanceur d'alerte n'avait pas été écouté et ensuite protégé, le gouvernement décidait de le réintégrer dans ses fonctions. Louis Robert dit ne pas être amer et il a gardé son franc-parler. En commission parlementaire, il expose sa vision du rôle que joue l'industrie, entre autres des pesticides, dans le monde agricole.
Les compagnies de fourniture d'intrants devaient être en aval des besoins de leurs consommateurs, des producteurs agricoles, alors que maintenant, on les a laissés opérer en amont dans le service conseil, dans le transfert et même dans la recherche. Ils conditionnent ainsi les besoins de leurs consommateurs. Or, la compétence en lutte intégrée ne se trouve pas au privé, mais beaucoup plus du côté du MAPAC et des clubs conseils en agro-environnement. Est-ce que les lobbies sont trop puissants? Je ne crois pas. Les lobbies ne sont pas si forts que ça. C'est que nous n'avons affirmé aucune opposition. Nous avons été faibles. Le dicton « Ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux » s'applique à la situation parfaitement. Nous n'avons pas résisté aux lobbies. Nous sommes devenus leurs complices. Si on arrivait à débarrasser le système de ces interférences, et ce serait assez simple, on réaliserait d'énormes progrès en termes de réduction de l'usage des pesticides. Par exemple, par le dépistage, les suivis au champ, l'accompagnement, la rotation des cultures, les traitements localisés, les doses réduites, contrôle mécanique, biopesticides, etc. Voyons maintenant les solutions, et en commençant par les solutions, d'après moi, qui ne fonctionneront pas. D'abord, les subventions, la recherche et la conversion forcée vers le bio. Moi, je ne suis pas un partisan des subventions pour régler cette problématique-là, parce que l'adoption des méthodes de lutte intégrée se font à coût à peu près nul. Le retrait des néonicotinoïdes ou des traitements de semences insecticides, ça coûte absolument rien. Même ça permet de sauver des frais. Les cultures de couverture, céréales d'automne, rotation des cultures, etc. Les plus beaux succès de transfert technologique sur les fermes se font généralement sans subvention. On le sait, en tout cas parmi nous, les vulgarisateurs présents sur le terrain, les producteurs qui n'essaient une méthode que parce qu'il y a une opportunité d'aller chercher quelques dollars sont les premiers à abandonner la dite méthode. Il faut savoir aussi que tout nouveau programme d'aide financière mobilise les quelques professionnels qui restent au MAPAC à gérer de la paperasse plutôt que faire ce pour quoi ils étaient payés, c'est-à-dire du transfert technologique.
Au Centre de recherche sur les grains, on a fait des changements dans la gouvernance. Le conseil d'administration est maintenant plus indépendant. Mais est-il assez indépendant, se demandait entre autres la députée Marie Montpetit en discussion avec le président du conseil du CEROM, Denis Pageau.
Il y a trois membres qui représentent les producteurs de grains du Québec et deux membres du conseil d'administration qui sont de la coopérative fédérée.
Le fait justement d'avoir des membres de la coop fédérée, est-ce que ça ne va pas à l'encontre, à l'inverse un peu de ce qui vous a été recommandé dans le rapport de gouvernance? Comment vous voyez ça, d'avoir des gens justement qui sont présents, qui ont des intérêts sur le conseil d'administration encore aujourd'hui de votre centre de recherche?
Monsieur Pageau.
Écoutez, je vois pas ça comme une contradiction dans la mesure où on a fait les changements nécessaires pour que les membres indépendants soient en plus grand nombre. Ça, c'est la chose la plus importante. Ce qui intervient aussi dans ça, c'est qu'on a mis sur pied une politique à l'égard de...
d'éthique et de politique d'harcèlement.
Excuse-moi, oui. Pour faire en sorte que si jamais certains chercheurs, par exemple, recevaient des appels ou avaient de la pression sur eux, pour quelle que soit la raison, bien, il y a une procédure pour eux de venir nous voir, de suivre une certaine hiérarchie pour parler de la situation si elle se présentait.
Et qu'en est-il du lien étroit que le CEROM veut entretenir avec le secteur privé? La directrice générale du CEROM, Gabriela Martinez, interrogée à ce sujet.
Vous recommandez de développer un lien étroit en matière de recherche avec les entreprises. Pour vous, c'est souhaitable, souhaité que l'industrie soit impliquée au niveau de la recherche.
Madame Martinez.
Je vous dirais que ce n'est pas chose pour moi, pour le gouvernement aussi. Parce que pour n'importe quelle subvention qu'on demande, on nous demande minimum 20 % d'apport financier de l'industrie. Donc, c'est souhaitable, évidemment, pour tout le monde. Je crois que si les choses sont faites correctement, il n'y a pas de dommage à que l'industrie collabore à l'élaboration de la connaissance. parce qu'eux aussi peuvent en tirer bénéfice.
Monsieur le député de Bonaventure, la parole est à vous.
Qui définit les orientations de recherche? Est-ce que c'est le conseil d'administration? Est-ce que ce sont les chercheurs eux-mêmes?
C'est le gouvernement qui nous donne les orientations les plus graves. Parce que si vous voulez appliquer à une demande de fonds, il faut que votre recherche soit orientée avec ce que le gouvernement veut.
Et il y a les allégations à l'endroit de certains agronomes à l'emploi de commerçants de pesticides. L'Ordre des agronomes du Québec mène des vérifications et enquête sur certains cas. On veut s'assurer de l'intégrité de tous et du respect du code de pratique. Tout de même, le président de l'Ordre des agronomes demandait en commission parlementaire que soit confiée à ses membres la prescription de tous les pesticides.
Pour plusieurs producteurs agricoles, c'était mentionné plus tôt, les pesticides sont devenus une méthode de gestion du risque, une assurance protégeant le rendement des cultures et le revenu de l'entreprise. Il est donc crucial de revoir les stratégies d'intervention phytosanitaire afin que notre agriculture soit davantage agroécologique et intègre des méthodes de lutte aux ennemis des cultures de façon à être plus intégrée en tenant compte de facteurs économiques. Dès la première mouture du Code de gestion des pesticides, l'Ordre des agronomes a prôné la nécessité de mieux encadrer leur utilisation. Or, au Québec, 1 200 produits, 370 matières actives sont en vente libre. Depuis mars 2018, seulement 4 insecticides, 1 herbicide sont réglementés et requièrent l'élaboration d'un diagnostic, d'une justification et d'une prescription d'un agronome. C'est insuffisant. Une de nos principales recommandations vise l'encadrement de tous les pesticides par le biais de plans annuels élaborés de concert avec l'agronome et le producteur. Ce plan justifiera l'ensemble des pesticides utilisés. De cette façon, il sera possible de diminuer et de contrôler les risques associés aux pesticides, de limiter l'impact sur l'environnement, la santé et tout en produisant de nourriture saine.
Parce qu'il s'agit de produits dangereux, à l'Institut national de la santé publique du Québec, on croit également que les agronomes devraient être plus impliqués dans la prescription des pesticides. O'Neill Samuel, du Centre d'expertise et de référence en santé publique.
Oui, les agronomes devraient être impliqués davantage dans la prescription, dans la recommandation. Et actuellement, on a 5 produits pour lesquels on exige des prescriptions et comme ce sont souvent des produits dangereux, il y aurait intérêt à ce que des professionnels soient plus impliqués dans la recommandation et la prescription de produits.
Est-ce que des entreprises rémunèrent des agronomes en fonction des volumes de vente liés à leurs prescriptions de pesticides? Chez Solio Agriculture, filiale de la Coop Fédérée, le chef de la direction, Sébastien Léveillé, est catégorique.
Chez Solio Agriculture, on a 75 agronomes, mais il faut comprendre, M. le député, que c'est l'ensemble des coopératives locales qui emploient beaucoup, beaucoup d'agronomes. Donc, on augmente à près de 300 agronomes au Québec lorsqu'on compte tous nos réseaux au Québec.
Êtes-vous en mesure un peu de m'expliquer le système de rémunération de vos agronomes?
La rémunération chez Solio Agriculture à la Coop Fédérée, il n'y a aucun agronome qui a une rémunération basée, par exemple, sur les volumes de vente ou par une bonification sur des volumes ou des augmentations de quantité de produits ou quoi que ce soit. Par contre, actuellement, on fait un inventaire de l'ensemble de la rémunération des coopératives. Il faut comprendre qu'une coopérative locale est une entreprise indépendante dans notre réseau, mais qui est une entreprise indépendante. Mais ce qu'on fait présentement, c'est faire un recensement de l'ensemble de la rémunération. On a fait aussi l'embauche d'un groupe d'éthiciens qui va nous donner un coup de main avec l'information qu'on va recevoir de ce recensement-là. Il va y avoir un plan d'action qui va être déposé. On va être capable de l'adresser là, dans les prochaines semaines là, suite à ça.
Les coop régionales, membres de la Fédérée, offrent-elles à des agronomes des rémunérations liées à des ventes? On le verra plus tard. Et si des cas surgissent, on a pris soin chez Solio de retenir les services de spécialistes en éthique. Du côté des producteurs de grains, les plus gros utilisateurs de pesticides, on veut montrer de la bonne volonté. Christian Overbeck, président.
Les producteurs agricoles sont les premiers à subir les effets potentiels de l'usage des pesticides. Par ailleurs, ces produits coûtent cher, et même très cher. Aussi, notre milieu naturel est la base de notre profession, la base de toutes nos activités. Nous vivons dans la nature, nous travaillons dans la nature, nous avons besoin de la nature. Ce n'est donc pas par plaisir que les producteurs utilisent des pesticides. C'est parce que, pour le moment, ils font partie des outils de lutte aux ravageurs des cultures que sont les maladies, les insectes ou bien les mauvaises herbes. Un des aspects essentiels de notre présentation est que nous réclamons une meilleure reconnaissance de votre part des efforts réalisés par les producteurs pour améliorer leurs pratiques. En effet, selon les plus récentes données du ministère de l'Environnement, le risque pour l'environnement et la santé publique liées à l'usage des pesticides est en baisse par rapport à la période de référence 2006-2008. J'insiste sur ce point. Oui, une baisse de 14 % du risque pour la santé. Et oui, une baisse de 3 % en ce qui concerne le risque pour l'environnement. Oui, les choses changent au Québec. Et oui, nous allons continuer à travailler pour diminuer l'usage des produits les plus dangereux.
D'autres données disent pourtant que sur de plus petites superficies, on dépense plus en pesticides au Québec qu'ailleurs. Guy de Bailleul, coprésident de l'Institut Jean Garon.
Lorsque l'on cherche à situer le Québec, on est amené à le faire en particulier par rapport au reste du Canada, par rapport aux autres provinces. Et quand on consulte les statistiques, on peut avoir d'un côté des images relativement favorables pour le Québec et d'autres qui sont plus préoccupantes. Lorsqu'on consulte les données de Statistique Canada, par exemple, on voit que la proportion des terres qui reçoivent effectivement des pesticides au Québec est sensiblement inférieure à la proportion que l'on observe dans les autres provinces, et en particulier dans les provinces des prairies. En gros, on dirait entre 50 et 60 des terres au Québec reçoivent des pesticides, alors que la proportion peut atteindre 70-80. Lorsque l'on regarde du côté des terres effectivement cultivées, on constate le même écart, sinon encore plus important. Alors, on peut penser aussi que cette différence est liée aux types de cultures qui sont pratiquées et qui sont probablement plus homogènes, plus réduites dans les provinces du reste du Canada. Maintenant, lorsqu'on observe les dépenses en pesticides par hectare cultivé, là, les écarts sont sensiblement plus réduits et quelquefois, on est amené à constater qu'ils se dépensent davantage d'argent en pesticides par hectare cultivé recevant des pesticides que dans le reste du Canada. Je parle de dépenses parce qu'on n'a pas les données sur les quantités effectivement utilisées. Donc, on se réfère aux dépenses telles que les enregistre Statistique Canada.
Il y en a moins de surfaces qui reçoivent des pesticides, mais dans les surfaces qui reçoivent des pesticides, on est plutôt généreux.
Quand on consulte les dépenses par hectare en pesticides, telles qu'elles sont colligées et publiées par Statistique Canada, oui.
Il apparaît aussi difficile de concilier les chiffres cités par Christian Overbeck avec toutes les inquiétudes des milieux de la santé, par exemple sur le fait que beaucoup trop d'informations manquent aux chercheurs. L'industrie garde trop de secrets. Nicole Damestois, présidente directrice générale de l'Institut national de santé publique.
Afin de réduire les risques sanitaires des pesticides pour la population et pour les travailleurs, il faut d'abord mieux documenter l'exposition. Quand on parle de la population générale en particulier, nous avons fait état plus tôt des incertitudes sur les effets à la santé, mais l'information est aussi déficiente au niveau de l'exposition aux pesticides. La principale source d'exposition de la population générale est par l'alimentation. Les programmes de surveillance des résidus de pesticides des aliments et de l'eau devraient être bonifiés. Les données ainsi produites devraient être divulguées et facilement accessibles aux chercheurs et aux autorités sanitaires. Elle permettrait une surveillance active et continue de l'exposition de la population aux résidus de pesticides et permettrait de répondre à des questions telles que « À quoi la population est-elle exposée au juste? À quelle dose? À quelle combinaison de produits? Comment cela évolue-t-il dans le temps ou selon les régions? » Aussi, les données complètes de vente des pesticides devraient être rendues disponibles par le ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques afin d'optimiser nos indicateurs de risque. Dans un autre ordre d'idée, mais toujours dans le domaine des données, si on regarde le processus d'homologation des produits, il existe certaines lacunes au niveau de l'information utilisée pour étayer les décisions. Ainsi, puisque Santé Canada consulte actuellement sur le processus d'homologation, nous croyons nécessaire d'insister afin que l'ensemble des données probantes disponibles soient prises en compte. Ceci inclut spécifiquement les données issues de la recherche indépendante de l'industrie. De plus, toujours dans le cadre des exigences de l'homologation, il y aurait lieu d'inclure les effets chroniques de l'exposition à la formulation commerciale, pas seulement l'ingrédient actif. Finalement, dans ce premier bloc, quand on parle de recherche, puisque la réalité de l'utilisation des pesticides sur le terrain varie des conditions de laboratoire, il faudrait supporter la réalisation d'études chez les travailleurs agricoles pour connaître les risques sanitaires associés à leurs pratiques professionnelles. Deuxième bloc, celui qui aborde la notion de séparer le conseil phytosanitaire des intérêts commerciaux et d'encourager plus activement encore les pratiques de remplacement. La stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture énonce la base d'une intervention intégrée qui vise à réduire l'exposition de la population et des travailleurs aux pesticides. C'est un cadre solide auquel il faudra apporter des ajustements pour s'assurer d'atteindre les objectifs initiaux. La réduction des risques sanitaires associés aux pesticides nécessite une action concertée entre les différents partenaires, que ce soit les ministères, les producteurs et leurs représentants, l'industrie agrochimique, les établissements d'enseignement. Cependant, l'influence de l'industrie doit être recadrée. Il est démontré que la mise en place de services conseils indépendants est souvent associée à une réduction de l'utilisation des produits. Or, au Québec, l'offre actuelle de services conseils est principalement associée à la vente de pesticides. Il en résulte une situation d'apparence de conflit d'intérêts ou d'absence de neutralité qui est accentuée par certaines pratiques promotionnelles et publicitaires qui encouragent l'achat et l'utilisation de pesticides. Cette situation a aussi pour effet de nuire considérablement aux efforts visant à promouvoir l'utilisation des outils développés au Québec pour faciliter la substitution des pesticides plus toxiques vers des alternatives moins nocives. Il est possible d'assurer la mise en place de services conseils en phytoprotection plus neutres, à l'instar de ce qui prévaut dans d'autres pays ou pour d'autres produits potentiellement dangereux. D'autres pays ont aussi encadré davantage les pratiques promotionnelles et publicitaires de l'industrie des pesticides. Si le besoin de réduire l'utilisation des pesticides semble faire consensus, l'atteinte de cet objectif passera par un plus grand soutien à la recherche et à l'évaluation de technologies innovantes permettant d'éliminer, de réduire ou de substituer les produits moins toxiques. La gestion intégrée des ennemis des cultures et l'agriculture biologique doit prendre plus de place dans l'éventail des méthodes utilisées.
Et pour réduire l'usage de pesticides, le chercheur Louis Robert est d'avis que l'on dispose déjà des outils nécessaires.
Bien qu'il reste des travaux de recherche à faire ou à compléter sur certains aspects techniques de la lutte aux ennemis cultures, nous pouvons compter sur une multitude de techniques et méthodes déjà développées en recherche et validées en transfert, méthodes de la lutte intégrée, qui non seulement peuvent réduire considérablement l'usage de pesticides sur les fermes du Québec, mais qui s'intègrent sans coût important pour le producteur et même, dans la majorité des cas, sont même rentables à court terme.
Ici Lionel Levac. Dans un prochain blog, je reviendrai sur les préoccupations santé et l'homologation des pesticides par Santé Canada. Au revoir.